Bonjour, je suis Marie-Ange. Beaucoup de personnes me connaissent parce que je fais partie des Chouettes. Et depuis 10 ans, je participe à la journée pour l'éradication des violences faites aux femmes, puisqu'avant, j'étais au collectif. Aujourd'hui, mon propos, c'est de vous parler de la résilience, puisque j'ai vécu cela au cours des 20 dernières années, nous allons dire. Donc, la résilience, en fait, c'est une aptitude à résister à un choc, une habilité à se remettre de ses effets et à vivre d'une manière socialement adaptée. Pour moi, qui suis née il y a 71 ans, j'ai dû revisiter mon passé à plusieurs reprises pour le dégager de son poids de souffrance et lui donner son sens de progression. J'ai grandi à travers le manque d'amour pour découvrir ma souveraineté. Je suis passée de la plus grande soumission à la naissance de mon pouvoir intérieur. La plus grande de mes peurs était celle du pouvoir dominateur camouflé des hommes, car je me vivais comme une victime. J'ai lu beaucoup de récits de femmes qui ont osé témoigner des abus sexuels qu'elles ont subis dans l'enfance, et le premier fut celui d'Eva Thomas, qui m'a permis de révéler à moi-même ce que j'avais vécu. Donc, pour tous ceux qui m'ont connue après mon divorce, j'étais une femme normale, socialement adaptée. J'étais assistante sociale, enfin exactement déléguée à la tutelle. Et j'ai élevé seule mes deux enfants. Leur père sénégalais venait les voir. Il n'y a qu'une collègue de travail qui connaissait mes angoisses face à ma solitude et mes tentatives de séduction. Mais dès ma relation avec celui qui allait devenir mon second conjoint, dès le début de cette relation, j'étais une autre. Mes parents avaient même cru que j'étais dans une secte. Il était poète, guitariste et il m'avait séduit. Je suis tombée profondément sous sa... Comment on pourrait dire ? D'abord sous son charme, voilà. Puis très vite... Je suis tombée sous sa coupe. Je suis devenue une autre que moi-même. Parce qu'il a manifesté très tôt des comportements de violence verbale, de jalousie extrême, puis de coups. Malgré cela, j'ai accepté de l'épouser, mais je crois que ce n'était pas une part consciente de moi. Voilà, c'est quelqu'un qui mélangeait les agressions, les reproches, avec la passion amoureuse de temps en temps. J'étais de nouveau sa muse. Donc ça renforçait cette part de soumission à un idéal d'un homme que j'avais rêvé. Puis lui-même, voyant que j'étais très mal à l'aise avec la sexualité, a parlé du viol que j'aurais pu subir dans l'enfance. Et c'est ça qui a commencé à me travailler. Et j'ai commencé à aller voir un peu plus près ce qui se plaçait pour moi, petit à petit. Alors j'ai fait d'abord de la psychanalyse pendant 5 années, 3 fois par semaine. Et puis je me suis retrouvée à terre, paniquée, anéantie sous le poids d'un corps. Donc ça a été la première révélation. Puis, je vivais donc toute cette psychanalyse tout en étant sous la coupe de cet homme qui avait des colères énormes, des coups de pied, qui me donnait des coups de pied, qui me giflait, qui chantait de m'étrangler. J'étais complètement à la dérive et je m'enfuyais, je m'enfermais dans la salle de bain. Voilà, j'ai écrit même « Ma vie est un enfer » à l'époque. Et puis j'ai eu de la chance. Un soir, cet homme, mon mari, m'a emmené écouter une conférencière sur les expériences de mort imminente. Et la thérapeute que j'ai rencontrée après la conférence m'a dit de venir la voir. Et c'est comme si je n'avais pas le choix. Donc j'ai accepté de faire pendant 1 année une fois par mois la route jusqu'au-delà de Paris et pour comprendre ce qui se passait en moi. Et en fait, elle a pu, grâce à sa capacité de voir les scènes de vie des personnes, elle a pu me dire qui était cet homme qui avait été le premier, celui qui m'avait assoumis à son corps. Et c'était mon grand-père, maternel. Puis elle m'a accompagnée dans une forme de thérapie qui m'a réconciliée en partie avec mon corps. Et je voulais dire aussi que moi, je suis depuis tout le temps amoureuse de la nature et que ça m'a beaucoup aidée dans la résilience parce que très fréquemment, j'allais dans la forêt ou au contact des arbres. Parce que quand j'étais petite, après ce viol, je m'étais réfugiée dans les bras d'un grand cèdre. Et ceci m'avait permis de survivre, mais en même temps, j'étais rentrée dans l'oubli total de ce qui s'était arrivé, de ce qui était arrivé. Donc peu à peu, j'ai retrouvé la mémoire et j'ai revécu ces scènes de torture de l'inceste. Et puis, voilà ce qui m'a permis d'écrire un texte qui est très fort, donc que je vais vous lire, et qui révèle vraiment ce que l'enfant subit lorsqu'elle est sous le poids du corps d'un adulte sans défense. J'ai mal à la gorge, des cris étranglés, des mots ravalés, des pleurs étouffés. J'ai mal au cœur de tendresse trahie, d'amour tronqué, d'innocence flétrie. J'ai les jambes coupées de la fuite impossible, du corps dépossédé, du je éparpillé. J'ai mal au ventre de cette déchirure, de la honte qui me hante, de la grande imposture. En ayant pris conscience de ce qui m'était arrivé enfant, j'ai compris mieux pourquoi mes expériences sexuelles étaient désolantes, dont la première avec un garçon de mon âge. Mais que à l'époque, j'ignorais tout cela, bien sûr, et donc je n'ai pas supporté la relation avec ce jeune homme, bien qu'il était devenu mon fiancé, parce qu'il acceptait très mal que je n'ai aucune sensation, et surtout que mon corps refuse la pénétration. Et puis, j'ai fini par le quitter. J'ai épousé un Africain qui était plus expérimenté dans la sexualité, qui m'a introduite au moins au plaisir clitoridien, on va dire. Voilà. Petit à petit, j'ai retrouvé, avec d'autres thérapies, la confiance en moi et en l'homme, justement. Bien que je sois encore soumise à ses désirs plus qu'à l'écoute des miens. Au cours d'un stage de formation, pendant le temps où je travaillais, j'ai appris à exprimer mes limites dans un exercice très fort. Et ça m'a beaucoup aussi aidée à avoir les gestes plus clairs pour exprimer mon refus et me faire respecter. Aujourd'hui, d'ailleurs, les chouettes envisagent de proposer un stage d'autodéfense et je pense que ça, c'est fait partie des grands moyens pour développer la résilience. Donc, dans ce premier couple, dans ce couple où j'étais sous emprise, ça a été assez long pour que je pose des actes. Et ce n'est qu'en au moins presque 8 ans après le mariage que j'ai fait un premier départ. pour me retrouver auprès de mes parents et je leur ai parlé de l'inceste que j'avais subi. Et la première réaction, douter de moi. Et voilà. Ensuite, j'ai de nouveau, à la suite de coups vraiment attestés par un médecin, j'ai de nouveau fui du foyer et je me suis installée pour 6 mois chez une amie. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé à quel point j'étais en grande souffrance et que je n'avais plus à subir ça. Je me suis mis à grossir, à revivre, à trouver le temps d'aimer la vie, d'éprouver du plaisir, à me promener. Voilà. Sauf que voilà, cet homme qui était un grand parleur et un poète, il m'écrivait quand même son amour en disant que c'était moi qui ne savais pas le recevoir. Donc, voilà, ça, c'était aussi de voir que l'innocente petite fille qui vit un inceste, elle porte toute la honte de cet inceste, comme je l'ai écrit dans mon poème. Et du coup, en tant que femme victime de violence, j'étais forcément responsable de ce qui se passait. Donc, ça a été un frein très important pour me dire, mais en fait, c'est pas moi qui suis coupable, c'est lui qui est un homme violent. Et je suis retournée encore quelques mois avec lui. Et il a fallu un acte de violence qui menaçait ma vie pour que je prenne la décision de ne plus le voir et de demander le divorce. En fait, il avait essayé de m'étrangler et j'ai rêvé que j'étais à l'hôpital la tête en sang. Et donc, ça m'a poussée à appeler cette femme thérapeute pour lui dire ce rêve. Et elle m'a dit, mais écoute ce que te dit ton corps, les visions que tu as. Et pourquoi te sacrifier pour cet homme qui te maltraite? Et là, vraiment, j'étais prête à l'entendre. Et j'ai eu de la chance parce que, c'est marrant, hein, on peut dire ça, c'est vrai, ma voiture a été volée et donc cet homme-là ne supportait pas de voyager en train. Donc il a arrêté de venir me voir et j'en ai profité pour voir l'avocate et lui dire que je voulais divorcer, non pas pour faute, parce que ça, je savais qu'il se défendrait de façon très habile, et comme moi, j'avais juste un certificat médical. Donc, j'ai demandé une séparation à l'amiable. Bon, ce qu'il a accepté, moyennant la prise en charge d'une pension de ma part, parce qu'il travaillait, mais n'était pas rémunéré. Donc, c'est pour dire qu'il faut payer cher, quelquefois, pour retrouver sa liberté. Voilà. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est un voyage dans une communauté internationale à Findorn, en Écosse, où j'ai appris à guérir la petite fille intérieure en exprimant mes émotions et en découvrant la joie de vivre. Donc, au cours de ce stage, on a joué la colère avec plusieurs femmes qui avaient été victimes de violences. Et on était comme des guerrières dans la forêt. Et voilà, on prenait des bâtons, on criait, on tapait. Ça a été aussi très fort pour moi parce que tout ce ravalement de la colère et de la violence qu'elle fait naître, c'est vraiment important de pouvoir l'extérioriser. Et puis, il y avait un autre exercice qui était très fort où on nous demandait d'être d'abord la petite fille de joie qui avait été celle qui était avant l'agression du violeur. Et puis après, on se voyait petite fille maltraitée. Et puis, de nouveau, on reprenait la petite fille qui éclatait de rire pour rien, voilà. Moi, j'étais une petite fille comme ça. J'éclatais de rire pour rien. Je tournais en perdre la tête. Je dansais les pieds nus dans la rosée du matin. Je chantais sur le chemin en compagnie des oiseaux et des écureuils. et je m'émerveillais chaque jour de la beauté simple du monde. Donc j'ai réappris à aimer à danser et je me suis dit maintenant je veux apprendre à aimer mon corps en cherchant tout ce qui lui convient, en écoutant les signes de sa sensibilité. Et j'ai vécu dans une petite communauté qui m'a permis de faire ça en Normandie. Ensuite, j'ai changé d'orientation parce que j'étais dans un boulot de délégué à la tutelle depuis des années, 30 ans exactement. Et je me suis rendu compte qu'il ne me permettait pas d'être vraiment moi-même. Donc j'ai fait une formation pour être thérapeute et relaxologue. Voilà, et ça, à travers cette formation, j'ai aidé mon corps à guérir parce qu'on apprenait à masser. Et donc, j'ai reçu un massage en particulier d'un animateur qui m'a vraiment fait découvrir à quel point je pouvais relâcher mes tensions et accepter la tendresse des mains d'un homme quand elle est reliée à son cœur avec respect. Je me suis sentie, même je disais, je me suis sentie unifiée, légère, tellement bien. Voilà, je suis, grâce à cette formation en fait de thérapeute, je suis devenue confiante en moi-même, assurée. Et j'ai appris à aimer les autres avec empathie. Le Carl Rogers, c'était notre idole. Ensuite, il y a quelque chose qui a beaucoup joué dans la résilience, c'est les activités artistiques. Bon, depuis que j'étais petite, je crayonnais, je faisais des dessins et tout ça. Et là, quand j'étais avec cet homme maltraitant, donc c'était mon deuxième mari, hein, poète et guitariste, et pour préserver nos solitudes, on avait chacun un atelier dans une grande maison. Et donc là, j'ai repris le pinceau, les pinceaux et la peinture à l'huile, et je me le suis laissé l'inspirer en créant des tableaux. Et ça a été comme une révélation de la beauté que je pouvais révéler à travers tous ces paysages. Il y avait surtout des paysages, mais quelques personnages. Et quand je les revois en photo, parce que je ne les ai plus, je me dis que oui, c'était nécessaire pour moi de voir que j'avais cette capacité d'offrir la beauté et que je n'étais pas que cette femme telle qu'elle me le décrivait, incapable, et etc. Donc j'ai beaucoup... ça a duré pendant plusieurs années. Et puis ensuite, je me suis remariée en 2002, après je ne sais plus combien d'années de vie solitaire, mais pas très longtemps, peut-être assis quand même 5 ans, on va dire. Voilà. Et j'ai rencontré Brian, qui est toujours mon mari aujourd'hui. Et nous avions tous les deux un parcours de thérapie assez important. Lui pour bien d'autres raisons que les miennes, mais... Et ça nous a aidés à nous confier l'un à l'autre de façon très profonde dès le départ pour nous assurer que nous étions bien avec le bon partenaire. Avec lui, j'ai toujours exprimé ma créativité, soit dans la cuisine et pour son grand plaisir, mais aussi avec la découverte des plumes d'oiseaux avec lesquelles j'ai fait des objets, des tableaux, puis des masques. Je n'ai pas parlé d'un moment de la vie aussi qui a été important pour moi. C'était d'affronter mes peurs en me mettant à l'épreuve. Par exemple, de marcher toute seule dans la forêt au début. Et puis, à un moment donné, c'était de dormir... Bon, dans une petite tente, mais quand même, de dormir toute seule dans la forêt. Je testais souvent mon courage à partir de mes intuitions. Par exemple, quand je partais, mais ça c'était bien sûr que j'étais séparée depuis longtemps déjà, mais quand je partais en montagne, voilà, je guidais, je me laissais guider par ma petite voix qui me disait prends-la. Et ça m'a beaucoup aidée de braver ma peur, de prendre un peu de risque, mais surtout d'être confiante dans mes capacités et dans cette petite voix intérieure. Après, il y a autre chose que j'ai découvert, c'était les énergies, ce que j'appelle les énergies subtiles. Donc, je me souviens de ma première prise de conscience quand j'avais 40 ans. J'étais encore en couple avec mon mari, maltraitant, mais vivais la semaine à la campagne tout en travaillant. Je revenais fatiguée d'une marche hivernale solitaire très agréable autour d'un étang, reflétant les arbres givrés. J'étais adossée au radiateur de la salle pour me réchauffer quand soudain je ne me sentis plus dans mon corps, comme évaporée, enrobée d'une lumière blanche éclatante. Je n'avais aucun sens de la durée de cette envolée, mais j'en suis revenue étonnée et bouleversée. Quelques mois plus tard, j'ai eu une expérience similaire en peignant dans mon atelier, un lieu entièrement décoré de mes toiles où je me sentais protégée. Alors que j'étais assise devant l'une de mes toiles à peine ébauchée, le pinceau dans la main, en attente d'une impulsion, l'esprit vide, je fus subitement éblouie et transportée je ne sais pas où, en dehors du temps. Au retour dans les sensations de mon corps, je fus émerveillée par la peinture qui s'était réalisée sans effort. Donc petit à petit, je me suis vraiment devenue de plus en plus confiante dans les intentions qui me poussaient à aller dans un endroit, un peu comme si j'étais guidée par un ange gardien, comme on le dit dans la tradition chrétienne. Ça m'a aidée à trouver un logement, j'ai trouvé des livres qui correspondaient à mon évolution, ou des rencontres avec en particulier des thérapeutes. Donc j'ai vraiment acquis cette compréhension que l'intuition, qui est très féminine bien sûr, comme vous le savez, était plus forte dans une bonne guidance que le mental. Voilà. Après, pour moi, bien sûr, ce qui a été important, c'était de quitter le rôle de victime. Parce que pendant des années et des années, je m'étais complètement identifiée et je me sentais coupable. Et comme le violeur, puis l'homme maltraitant ne voulait pas reconnaître leur responsabilité, j'étais toujours, en fait, à l'intérieur de moi-même, dans mon inconscient, j'étais toujours soumise. Ceci est très fréquent quand l'enfant subit une forme de rejet de la part de ses parents. Et c'est ce qui m'était arrivé, en fait. Avant d'être violée par mon grand-père, j'étais agressée par mon frère aîné de 2 ans plus âgé. Et ma mère ne savait pas voir cela. Et donc, elle me disait, tu l'as bien cherché. Donc, ça voulait dire, tu as mérité les coups. La culpabilité était aussi reliée à la notion de péché, puisque j'étais dans une famille très chrétienne. Et donc, voilà, si c'est, oui, on a toujours quelque chose à se reprocher quand on est une petite fille éduquée comme ça. Et le mari maltraitant, en fait, savait me conditionner pour que je prenne chaque erreur de comportement selon son point de vue comme méritant une punition. C'est pour ça que je n'ai pas réagi la première fois qu'il m'a frappée. Donc, pour me libérer de la culpabilité, j'ai dû le dénoncer. C'est-à-dire que je suis même arrivée à lui écrire une lettre en lui disant « Mais c'est toi le coupable des violences que j'ai subies. » Et puis, me délester de cette culpabilité et de m'accorder à moi-même le pardon, c'est-à-dire de me dire « Oui, j'ai commis des erreurs, j'ai pas su voir, mais voilà, je peux me pardonner à moi d'abord ce qui m'est arrivé. Et puis d'arriver à pardonner au violeur qui était mon grand-père et à cet ex-mari violent. Ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait d'abord que je comprenne pourquoi c'était possible. Et ça m'a fait faire une recherche sur les hommes maltraitants, qu'est-ce qui leur arrivait, pourquoi ils pouvaient, ou les abuseurs d'enfants. Et dans mes lectures, j'ai compris qu'en fait, ils avaient eux-mêmes subi des violences. Et mon mari, d'ailleurs, de maltraitant, m'avait dit que son propre père maltraitait ses sœurs devant lui et même avait mis à mort son chien préféré devant lui. Donc oui, ces hommes-là ont subi des maltraitances, souvent même des abus sexuels. Donc ça m'a appris à éprouver de la compassion pour ces hommes-là et à les regarder comme des enfants blessés. Voilà, donc ce qui a été bien sûr le plus fort pour ma résilience, c'était de rencontrer un homme respectueux et avec lequel j'ai vécu et je vis encore une relation de couple. Elle a beaucoup évolué, bien sûr. Au début, nous étions dans un amour profond, très sensuel, sexuel. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai découvert le plaisir profond, enfin, le vaginal, voilà. Grâce à lui, parce que je menais la danse. Et ça, c'est très important pour les femmes qui ont été victimes de violences, de ne pas se remettre avec des hommes qui les soumettent dans la sexualité. Vraiment, c'est de découvrir son propre plaisir, son propre rythme, et d'exprimer ce qui fait du bien. Et donc, je suis devenue initiatrice de cette relation. Et j'ai dit d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que je me sens totalement en accord avec moi-même. Voilà, j'ai mis des jolies phrases dans mon petit écrit. Nous avons choisi d'être ensemble en ensemençant nos cœurs de tendresse, en cultivant la terre de nos corps par la bienveillance et la douceur. Chaque jour est un jour nouveau, chaque baiser un émerveillement. Nos corps s'épanouissent dans l'intimité renouvelée. Nos ombres sont délestées de leur poids de culpabilité et peu à peu de leur contenu émotionnel qui rend hypersensible. Alors, je l'écrivais parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on était très attentifs l'un à l'autre, plus peut-être même que nous le sommes aujourd'hui. C'est étonnant, hein, mais la relation amoureuse aidait dans ce sens-là. Aujourd'hui, Brian a 84 ans et moi 71 ans. Et quelquefois, nous ne savons pas faire suffisamment attention à l'autre pour ne pas réveiller ces blessures qui ont certes été reconnues, mais il y a toujours un petit point là, à un moment donné, où on sait qu'on peut faire mal encore. Voilà. Et je pense que dans tous les couples, il y a cette difficulté d'être soi-même et tout en étant très attentive aux besoins de l'autre. C'est compliqué, voilà. Mais bon, nous vivons une belle relation. La dernière chose, ça a été pour moi les cercles de parole de femmes que j'ai vécu beaucoup depuis 2007. Donc des cercles où on partageait nos ressentis, nos émotions, nos pleurs, nos rires, où on pouvait s'exprimer en toute liberté. On pouvait aussi devenir femme sauvage dans une danse transe avec le tambour. On pouvait être des gamines qui jouaient. On pouvait aussi s'offrir des gestes de douceur, danser nues comme une tribu dans l'obscurité à la lueur des bougies, nous masser mutuellement, nous rencontrer dans le regard et le sourire. Et toutes ces rencontres de femmes dans l'échange des expériences de plaisir, de souffrance, de rêve, m'a apporté la joie de la reconnaissance. En tant que femme, nous sommes unies par la même authenticité et le désir de rencontrer le féminin des hommes. Les cercles de femmes ont jalonné mon évolution et constituent toujours un réel support pour la solidarité et la découverte de soi. Je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel. Je voulais lire un poème que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, qui s'adresse à toutes les femmes. Femme si belle, au cœur rayonnant, simple et naturelle, le ciel dans les yeux, elle danse en riant, enivrée par le feu. Leurs mains généreuses, reliées à leur âme, offrent la tendresse au corps fatigué, accueillant la détresse des êtres blessés. Éternelles semeuses de graines nouvelles dans l'esprit de leurs sœurs, elles ouvrent la confiance en la voix de leur cœur pour une renaissance. Amoureuses du soleil, de la pluie et du vent, elles charment avec leurs fleurs, au parfum d'innocence, l'homme vulnérable accueillant sa douceur. Femmes courageuses, dans leur ventre habité par l'amour de l'enfance, au passé réconcilié, elles donnent naissance à la fille effrontée. Femmes rebelles, voyageuses solitaires, elles marchent leur vision sur le chemin sacré, honorant la terre pour toutes ses beautés. Femmes qui vivent au bord du monde, errant dans la forêt ou le désert, mères louves des égarés, femmes ardentes et dévouées. Femmes aux multiples visages, en accord avec leur corps, femmes sauvages se reconnaissant sœurs dans tous les paysages, délivrées de leur peur. Femmes si belles, au cœur rayonnant, simple et naturel, elle danse en riant. Donc pour les femmes qui souhaiteraient me connaître mieux, je suis à l'association Les Chouettes, mais j'ai aussi un mail et je peux d'ailleurs transmettre l'entièreté de mon manuscrit Les Chemins de Résilience. Donc mon mail c'est marie.lunesoleil@gmail.com. Merci de votre écoute.